VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 4 janvier 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
Le président de la commission électorale gambienne, craignant pour sa vie, s'est réfugié au Sénégal.
En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle, qui a signé sous réserve l'accord au dialogue de la dernière chance, remet déjà en cause certains de ses passages.
Au Burundi, la plus ancienne Ligue des droits de l'homme, ITK, a été définitivement radiée de la liste des ONG locales autorisées à travailler dans le pays.
Au Tchad, la rentrée scolaire n'est pas toujours effective, malgré l'appel du gouvernement à une reprise des cours le 3 janvier.
En Turquie, l'auteur de l'attentat du Nouvel An à Istanbul reste introuvable malgré l'arrestation de 16 personnes, dont son épouse présumée.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le président de la commission électorale indépendante gambienne, Aliou Mouma Ndiaye, s'est réfugié au Sénégal voisin par crainte pour sa sécurité, a affirmé mardi soir à l'AFP un membre de sa famille. Aucun commentaire n'a pu être obtenu de sources sénégalaises. L'AFP a tenté de joindre plusieurs membres de l'AIC jusqu'à tard mardi soir sans succès.
Aliou Mouma Ndiaye a fui au Sénégal après avoir appris que les autorités gambiennes complotaient contre lui et son équipe, a déclaré ce membre de sa famille sous couvert d'anonymat. Certains membres de son équipe sont également partis pour le Sénégal, a-t-il ajouté, déclinant tout commentaire supplémentaire. On ignore pour le moment quand M. Ndiaye avait quitté la Gambie, avec qui, tout comme la nature des menaces à son encontre.
Toujours en Gambie, l'une des 3 stations de radio privées fermées par les autorités a été autorisée à revenir sur les ondes. Les 2 autres sont toujours réduites au silence. Une nouvelle péripétie dans le bras de fer entre le président sortant gambien Yahya Jammeh et l'opposant Adama Barrow, vainqueur de la présidentielle du 1er décembre. Les précisions, Michel Joseph.
La station Afri Radio a reçu lundi soir l'autorisation de reprendre ses activités, mais sous un encadrement strict. On nous a demandé d'arrêter tous les programmes habituels et de faire en sorte qu'aucun animateur ne soit en studio. Aucun employé n'est autorisé à parler à l'antenne, a expliqué un membre de son personnel sous couvert d'anonymat. Mardi soir, la radio ne diffusait que de la musique. Pas de changement pour les 2 autres stations, Teranga FM et Hilltop Radio, qui restent fermées. Jusqu'à mardi soir, aucune explication n'avait pu être obtenue des autorités sur les motifs de ces fermetures de radio. Aucun document officiel n'a été produit pour motiver ces fermetures, a dénoncé l'ONG Reporters sans frontières, précisant que, selon des sources locales, aucune de ces radios n'avait diffusé de contenu susceptible de froisser les autorités ces derniers jours. Ces fermetures arbitraires sont extrêmement préoccupantes dans le contexte actuel de crise post-électorale en Gambie, a déclaré la rédactrice en chef de Reporters sans frontières, Virginie Dangles.
En République démocratique du Congo, moins d'une semaine après la signature de l'accord politique ayant sanctionné les discussions entre acteurs politiques congolais sous les auspices de l'Église catholique, la majorité présidentielle qui a signé cet accord sous réserve remet déjà en cause certains de ses passages.
Aubin Minaku, le secrétaire général de la plateforme politique de Joseph Kabila, assure que toutes les dispositions de cet accord qui ne respectent pas la Constitution et les lois congolaises sont nulles et de nul effet. On l'écoute au micro de Thierry Kamoudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La majorité présidentielle a effectivement signé l'accord sous réserve et est satisfait de cet accord. La majorité présidentielle a émis une réserve essentielle concernant l'inclusivité. Suite à cette réserve, cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrés dans la suite du processus. Nous y veillerons. L'accord signé est une étape réussie, mais qui a une autre étape, et cette étape concerne l'arrangement particulier. Enfin, au-delà de tout cela, avant, pendant et après l'élaboration de l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va appliquer l'accord pour autant qu'il soit conforme à la Constitution. Toutes les dispositions de l'accord contraires à la Constitution de la République et aux lois de la République sont nulles et de nul effet.
Aubin Minaku, secrétaire général de la plateforme politique du président congolais Joseph Kabila.
Ajoutons que, mardi donc, la coalition au pouvoir en RDC a conditionné sa participation aux négociations sur les modalités et le calendrier d'application de l'accord de cogestion du pays à la reconduction du mandat de la médiation des évêques par le président Joseph Kabila. Les évêques avaient invité mardi la majorité et l'opposition à déposer mercredi des propositions écrites sur les modalités de désignation du Premier ministre, des membres du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, la taille du gouvernement, le partage des rôles pendant la transition jusqu'à l'élection du successeur de M. Kabila, selon l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de l'épiscopat congolais.
Les évêques doivent d'abord présenter le rapport au président de la République et celui-ci devra reconfirmer dans son pouvoir discrétionnaire le mandat des évêques et le préciser par la suite, a déclaré Aubin Minaku, le secrétaire général de la majorité présidentielle que nous avons entendu plus tôt sur la question dite de l'inclusivité.
Au Burundi, la plus ancienne Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, a été définitivement radiée de la liste des ONG locales autorisées à travailler dans le pays. La décision est sans surprise pour le président de l'organisation. Le point avec Dili Diko.
ITK, agréé depuis 1991, était suspendu d'activité depuis le début de la crise déclenchée par la décision en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat qu'il a remporté en juillet de la même année. Pour enfoncer le clou, les autorités ont décidé ce mardi de dissoudre la Ligue en réponse à la publication en novembre d'un rapport coécrit avec la Fédération internationale des droits de l'homme qui faisait le point sur les répressions gouvernementales et les violations des droits de l'homme. Une ordonnance du ministère de l'Intérieur déclare ITK définitivement radié de la liste des associations sans but lucratif œuvrant au Burundi. En chair, Nicoya Guizé, président d'ITK, actuellement en exil, affirme ne pas être surpris de cette décision. « Nous n'allons pas renoncer à notre mission », a-t-il promis. Les grandes figures de la société civile et les responsables des médias indépendants burundais sont eux aussi en exil.
Aucune mise en examen à l'issue de l'enquête de la France sur les accusations de viol sur mineurs portées à partir de 2014 contre des soldats de la force Angaris, alors déployés en Centrafrique. Nathalie Barge.
Deux autres enquêtes portant également sur des allégations d'abus sexuels qui auraient été commis par des militaires français déployés dans le pays ont été ouvertes parallèlement sous l'autorité du parquet de Paris. L'une a été classée sans suite le 25 novembre et l'autre est toujours en cours. Depuis mai 2015, trois juges d'instruction enquêtaient sur des accusations de viol commis dans un camp de déplacés de Mpoko près de l'aéroport de Bangui entre décembre 2013 et juin 2014 et visant au départ 14 militaires français. L'affaire était restée secrète jusqu'à ce que le journal britannique The Guardian révèle fin avril 2015 l'existence d'une note confidentielle des Nations Unies contenant les accusations d'enfants centrafricains faisant état d'abus sexuels en échange de nourriture ou d'argent. Informé dès juillet 2014, le ministère français de la Défense avait saisi le parquet de Paris qui avait ouvert une enquête préliminaire avant de confier une information judiciaire à des juges.
Ici aux États-Unis, les Républicains contrôlent à la fois la Chambre des représentants, le Sénat et la Maison-Blanche suite aux élections du 8 novembre, une occasion rêvée pour imposer une politique conservatrice.
Hier, Paul Ryan, qui a été réélu à la tête de la Chambre des représentants lors de l'ouverture de la nouvelle législature, a déclaré que c'est une chance unique pour les Républicains. Mais la majorité a déjà subi un premier revers, puisqu'étant obligé de retirer un projet visant à limiter les pouvoirs du bureau d'éthique, une volte-face en moins de 24 heures.
Au micro d'Abdulrahman Dia, le professeur Lorenzo Morris, politologue à l'Université Howard de Washington.
C'est c'est un peu un avant-goût, mais c'est un avant-goût de stratégie. Les diversions et ensuite le cible direct, les projets principaux. Et je crois que dorénavant, on verra des petites tentatives, des petits projets qui sont extrêmes, mais qui peuvent être retirés à côté ou juste avant des projets qui sont plus importants en domaine de politique, comme la santé, Obamacare, ou bien comme la protection des droits de vote, ou dans le domaine des impôts et la taxation pour les grandes entreprises. Toutes ces questions doivent être entirées des petites et questions peut-être plus extrêmes.
Donc on s'attend à une année difficile à Washington.
Oh bien, une année difficile, mais pleine de drames, pleine de controverses.
Le professeur Lorenzo Morris, politologue à l'Université Howard de Washington. Voilà pour le journal.
La Minute Éco, John Linden.
En RDC, la croissance devrait atteindre 2,9% cette année contre 7,7% de croissance annuelle moyenne entre 2010 et 2015. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la Banque centrale. Le pays, dont 95% des revenus d'exportation proviennent des industries extractives, a subi de plein fouet la chute des cours mondiaux des minerais en 2014 et 2015, principalement dû à la baisse de la demande chinoise. La finance islamique arrive au Maroc. La Banque centrale marocaine et le ministère des Finances ont autorisé la création de 5 banques islamiques dites participatives. Des crédits halal et des comptes conformes à la charia seront donc bientôt disponibles dans le pays. Selon Standard & Poor's, cité par Usine Nouvelle, la finance islamique pourrait représenter entre 10 et 20% du système bancaire du Maroc. Au Nigeria, le riz en plastique était en réalité du riz de contrebande. Le 21 décembre, les douanes du Nigeria avaient saisi 102 sacs de 50 kg de présumé riz en plastique destiné à être vendu à l'approche des fêtes de fin d'année à Lagos. Selon un communiqué des douanes nigérianes, des analyses ont permis d'établir que le riz incriminé n'était pas en plastique, mais plutôt contaminé par des micro-organismes.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Défection de taille pour le Cameroun à 2 semaines de la CAN au Gabon.
L'attaquant de Schalke 04, Éric-Maxime Choupo-Moting, s'est retiré de la sélection camerounaise. Selon un communiqué de son club publié hier, il ne participera donc pas à la CAN au Gabon prévue du 14 janvier au 5 février. L'Algérien Nabil Bentaleb et le Ghanéen Baba Rahman, eux, participeront bien au tournoi continental avec leurs sélections respectives, a ajouté Schalke 04. On rappelle que plusieurs joueurs camerounais figurant dans la préliste de 35 joueurs du sélectionneur Hugo Brousse ont décliné la sélection, notamment le milieu défensif de Lille, Ibrahim Amadou, et le défenseur de Liverpool, Joël Matip.
Sadio Mané, lui, sera bien à la CAN avec le Sénégal.
Oui, le meneur sénégalais de Liverpool, transféré cet été de Southampton pour 40 millions d'euros, laisse son équipe des Red Devils, deuxième de la Premier League. Sadio Mané a inscrit, je le rappelle, 9 buts depuis le début de la saison.
Les éléphants de Côte d'Ivoire bénéficieront d'un budget de 3,9 milliards de francs CFA pour cette CAN.
Un budget en hausse pour leur stage de préparation et leur participation à la CAN 2017 au Gabon. L'État ivoirien respectera ses engagements vis-à-vis de la Fédération de football afin que l'équipe nationale se déplace pour défendre son titre, a annoncé le ministre des Sports et Loisirs Albert-François Amika sur les ondes de la RTI. Comparé à celui de 2015, ce budget est en hausse de 400 millions de francs CFA.
Tennis, retour à la compétition réussie pour Serena Williams.
L'américaine numéro 2 mondiale s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi d'Auckland qui marque son retour à la compétition après 4 mois d'absence. Serena Williams s'est imposée en 2 manches contre la française Pauline Parmentier, 69e joueuse mondiale, le score 6-3-6-4. La dernière apparition sur les cours de l'ex numéro 1 mondial, détentrice de 22 titres du Grand Chelem pour 71 victoires au total sur le circuit WTA, remontée à sa demi-finale perdue de l'US Open contre la Tchèque Karolina Pliskova, c'était en septembre 2016. Enfin, Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, le ministre de l'Intérieur, Pascal Baranda Guillé, a radié définitivement la plus ancienne Ligue burundaise des droits de l'homme ITK de la liste des ONG locales. Monsieur Baranda Guillé accuse ITK de ternir l'image du pays et a semé la haine et la division au sein de la population. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à Ottawa, au Canada, la présidente de la Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Électoral, Justine Kurunziza.
Personnellement, je trouve rien d'étonnant dans la décision qui a été prise par le gouvernement du Burundi, parce que la Ligue ITK est parmi les organisations qui dérangent. Parce que la Ligue ITK, depuis qu'elle avait même été suspendue, avait continué à recueillir les exactions, les violations des droits de l'homme sur terrain. Et ça énervait le gouvernement du Burundi parce qu'ils veulent tout faire en silence. Ils veulent continuer à violer les droits de l'homme, à tuer, à créer beaucoup de fausses communes à l'insu de tout le monde. Alors la Ligue ITK a beaucoup de présence sur terrain et les membres continuent à rapporter ces crimes. Bon, c'est pour ça que je trouve que c'est une réaction très normale pour moi, parce que le gouvernement a tendance à faire taire, comme il a fait taire les radios. Il continue à faire taire même les organisations de la société civile qui travaillent pour la défense des droits de l'homme.
Est-ce que vous pensez que cette décision va dissuader la Ligue ITK à continuer son travail?
Non. Je pense qu'on va continuer à voir les rapports parce que, comme je dis toujours, même si les bureaux sont fermés, moi je dis toujours qu'il y a d'autres bureaux de la Ligue ITK dans les cœurs de tout un chacun, de tout un défenseur des droits de l'homme. Donc tout le monde va continuer à travailler. Même les paysans, la population sur terrain, ils ont leur façon de continuer à donner les rapports d'une façon discrète et confidentielle. Donc ça va se savoir, ça va continuer à être rapporté. Parce que le gouvernement voudrait continuer à tuer, continuer à violer les droits de l'homme à l'insu de tout le monde. Donc c'est au gouvernement que ça profite parce que ça, personne, les Nations Unies, l'Union africaine, les autres organisations qui regardent tout à la loupe, qu'ils ne vont plus avoir ce rapport, les rapports qui les chargent, les rapports qui intéressent toujours ces organisations ou même la CPI.
Est-ce qu'il y a encore des organisations de la société civile crédibles sur le terrain qui continuent à vaquer à leurs activités?
Très peu, parce que si tu ne travailles pas dans le sens que veut le gouvernement, automatiquement on ferme. Donc ça sera très très difficile, et c'est difficile même aujourd'hui pour ces autres organisations de continuer à travailler. C'est juste une présence pour les organisations qui restent au pays. C'est juste une présence, mais n'osent pas vraiment faire leur travail selon leurs objectifs, selon leur volonté. Donc, le gouvernement les suit à la loupe et il les menace. Donc, tu ne peux pas aller sur terrain sans la présence des dirigeants, des administratifs locaux. Donc, ils doivent tout contrôler et tu dois tout faire selon leur orientation, quoi. Même les organisations qui sont sur terrain ne travaillent pas selon leurs objectifs, selon leur volonté, parce qu'ils doivent tout faire selon les organisations, l'orientation des administratifs de terrain.
Justine Kurunziza, qui vit en exil à Ottawa, au Canada.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au Sénégal, l'opposition dénonce l'adoption d'une nouvelle loi qui attribue 15 sièges de députés à la diaspora, jugeant les coûts exorbitants. L'Assemblée nationale passera donc de 150 à 165 députés à partir de la prochaine législature de juillet 2017. Mais pour Mohamed Mbodj, le coordonnateur du Forum civil, une organisation de la société civile, l'apport de la diaspora au débat politique peut enrichir la réflexion politique au Sénégal. Au micro d'Abdourahmane Dia, les explications de M. Mbodj.
Pour l'opposition, une bonne partie en tout cas, il fallait choisir 10 députés dans les 150 déjà qui composent le Parlement. Donc c'est sur les modalités qu'il y a eu une petite divergence, mais pas sur le principe d'assurer la représentation de la diaspora. C'est hier, dans le vote du code électoral, qu'on a fixé un chiffre. Il y a eu 5 autres qui se sont ajoutés à cela. Donc ça, ça ne faisait pas l'objet d'une discussion. Et c'est ça peut-être qui a surpris et heurté l'opposition. C'était pas ça qui était planifié.
Et justement, cette opposition a comme argument le coût financier de ces 15 nouveaux députés qui vont venir s'ajouter, disons, au nombre de 150 que certains jugent déjà pléthoriques.
On peut le juger, on peut penser que 150 députés, 165, c'est beaucoup. Pour un pays de 13 millions d'habitants, comment on peut penser que ce qui est déterminant, c'est l'efficacité de l'institution sur les missions qui lui sont confiées. Et qu'une démocratie qui marche, qui installe une bonne gouvernance dans un pays, qui assure la stabilité politique, n'a pas de coût. On ne regardera pas sur les coûts. Donc, la question du coût, comme la question de l'apport des immigrés, ne devrait pas être un argumentaire décisif dans ce débat.
Est-ce que selon vous, cette institution est efficace aujourd'hui?
Ça fait un gros débat. Au regard même du niveau de participation politique aux élections législatives, une des plus faibles de tous les scrutins du pays est l'élection des parlementaires. C'est à peu près un tiers de l'électorat qui se prononce depuis plus de 20 ans ou plus.
Ce que veut dire quoi selon vous?
Et une crise de légitimité de l'institution.
Le fait d'ajouter 15 députés de la diaspora, vous pensez que ça peut contribuer à légitimer un peu l'Assemblée nationale?
Moi, je retiens le principe d'une diversification de la représentation politique au Sénégal. Par des acteurs qui sont immergés dans de grandes démocraties, des fois, comme dans les dictatures en Afrique. Ce segment de l'électorat porte en lui-même la diversité des expériences de construction démocratique et de construction de systèmes de gouvernance publique efficaces ou pas efficaces du tout et très instables. De ce point de vue, leur participation dans le débat pourrait souvent attirer notre attention sur ces deux extrémités qui soit polarisent notre démocratie pour la tirer en haut ou menacent notre démocratie parce que venant de segments qui ont vécu dans des pays où l'instabilité politique a été la donne majeure.
Mohamed Mbodj, coordonnateur du Forum Civil, une organisation de la société civile sénégalaise.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Rétrospective 2016 et perspective 2017 sur VOA Afrique. Ce matin, le Mali et le Togo. D'abord le Mali. Une meilleure vision et gestion de la question migratoire, paix et stabilité partout au Mali, création d'entreprises locales pour fournir davantage d'emplois aux jeunes, tels sont entre autres les souhaits des Maliens pour 2017. Si certains sont optimistes, d'autres restent en revanche très pessimistes à cause de l'insécurité, du chômage et aussi du rapatriement des Maliens de l'extérieur de Bamako. Notre correspondant Kassim Traoré.
L'optimisme chez les Maliens est naturel. Malgré la difficulté du Mali, en ces débuts d'année 2017, certains Maliens veulent garder l'espoir.
Dramane Konaté, conseil pédagogique à la retraite. De point de vue perspective, bon, je pense que nous pouvons espérer, étant donné que nous sommes des fatalistes. Nous sommes des religieux, en tout cas moi j'ai bon espoir. Le Mali doit faire face vraiment à la paix, parce que jusqu'à présent, cette histoire de paix, la négociation jusqu'ici, là, ça trébuche. Nous voyons que notre président, il est bien engagé. Sérieusement, il a vu que ce n'était pas une question de force.
La première grande activité de l'année 2017 au Mali, c'est le sommet Afrique-France. Il est source d'optimisme chez certains jeunes Maliens.
Moi, je suis Abdulaziz Traoré. Je suis optimiste puisque avec l'arrivée des investisseurs, nous pouvons espérer avec l'arrivée des usines qui vont combattre un peu le chômage. Et pendant ces sommets-là aussi, la masse salariale devrait être augmentée également.
Moi, c'est Abdoulaye Samasekou. Je suis aide bibliothécaire à la Flash. Ces sommets-là, peut-être, ça va faire des changements avec multifonctionnel de tous les chômages. Mais moi, je pense que les sommets-là, c'est très important ici au Mali. Ça va nous donner beaucoup d'avantages, surtout les jeunes.
Cet optimisme n'est pas partagé par tous les jeunes. Pour certains, ce sommet vient augmenter la difficulté du pays.
Souri Brahim Konaté, journaliste. Je ne m'attends pas à plus d'innovation. C'est vrai, le Mali recevra une rencontre internationale qui est le sommet Afrique-France. Aujourd'hui, le pays est confronté à plusieurs problèmes qui dépassent nos autorités et dont la gestion dépasse même quelque part la communauté internationale. Parce que la position du Mali dans le Sahel est de telle que le terrorisme est très développé, notamment sur les un tiers du pays.
Pour le secrétaire à la communication du parti Djama, parti de la majorité présidentielle, le régime actuel n'a pas de perspective pour les Maliens. Moriba Dabou.
Imagine, quand ils sont venus, ils ont promis 1000 emplois. Aujourd'hui, ils en ont fait 5000 chômeurs. Avec l'accord de réadmission, on a eu des parents en France qui nous ont appelés, qui vont être refoulés. Vous partez en Italie, il y a plus de 10 000 Maliens qui sont emprisonnés. En Espagne, ils sont plus de 23 000. Et en France, c'est plus de 25 000. Où est-ce qu'on va? Sincèrement, la meilleure façon de dire à ces gens non, c'est d'aller tout simplement voter contre les partis au pouvoir en 2018. C'est la seule solution.
L'emploi chez les jeunes peut être gage de paix avec l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue.
Moi, je me nomme Aïssata Diarra. Moi, je voudrais surtout que l'État fasse des projets pour les jeunes, pour les enfants surtout, qui sont dans la rue, qui sont orphelins, qui sont là sans famille, quoi. Et que l'État, disons, fasse un projet pour ces enfants-là. Et que l'État fasse un projet pour les jeunes aussi.
Moi, c'est Konibadi Daouda Kindo. Mon souhait le plus ardent est que la paix arrive enfin dans notre pays. Que tout ce qu'on a dit, sur ce qu'on a écrit sur les papiers, que ce soit une réalité. On sait que l'emploi des jeunes ne peut pas se faire sans la paix.
Pour bien démarrer l'année 2017, d'autres Maliens préconisent les changements de l'équipe gouvernementale.
Je suis Abdoulaye Mohamed Simpara. Je dirais quand même que le président, pour qu'il puisse essayer de mettre les Maliens dans les bonnes conditions, il va falloir qu'il se débarrasse de certains de ses ministres, à savoir, par exemple, le premier ministre. Donc, il doit les faire partir. Et je pense qu'à mon avis, je pense que peut-être comme ça, ça pourra aller. Il va falloir que l'État essaie de au moins jeter un rétrospectif, c'est-à-dire de voir au moins les conditions de vie des Maliens, essayer d'améliorer un peu.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Maintenant, qu'attendent les Togolais de 2017? Notre correspondante Kay Lawson s'est promenée dans les rues de Lomé, la capitale, pour recueillir quelques-uns de leurs souhaits.
Je suis Kash Patrick, écrivain indépendant. Pour l'année 2017, je souhaite que le pouvoir d'achat du Togolais augmente. Alors, il faut que les salaires augmentent. Il faut que sur le plan social, qu'on n'ait plus à aller de grève en grève dans le secteur de l'enseignement, surtout aussi dans le secteur de la santé. Sur le plan politique, il faut qu'on aille véritablement vers une décentralisation. Il faut que les élections locales se tiennent. Il faut aussi qu'on fasse tout pour enrayer de nos habitudes la corruption et la mauvaise gouvernance.
Moi, c'est Paul Amozumi.
Le défi qu'il y a aujourd'hui, c'est l'émergence. Alors, ce que je souhaite pour le Togo, c'est que le Togo émerge, comme nous le disons, et que nous puissions également être à la hauteur des autres pays africains, et pourquoi pas à l'international.
Je suis Legesim Maliki. Je souhaite un bon développement à notre pays, surtout que ceux qui boulottent déjà pour leur salaire, qu'on les augmente, afin que les commerçants et autres aussi trouvent du bénéfice. Et je souhaite aussi la paix et la compréhension entre les partis politiques et toute la population.
Moi, mes voeux, c'est pour que les chefs de l'État puissent avoir un esprit de justice et de vérité pour les peuples, pour que les choses puissent changer un peu, l'amélioration de vie.
Je suis Emmanuel Segadi, que 2017 soit une année de prospérité, de santé pour tous les Togolais. Et nous souhaitons également que le chef de l'État prenne à bras le corps les préoccupations de lutte contre la corruption, les préoccupations de la vie chère, les préoccupations des infrastructures hospitalières et routières, les préoccupations liées aux universitaires, parce que nous pensons que c'est la formation qui construit et qui édifie l'homme. Et les préoccupations également des enseignants.
Je suis Martin Gagnon Messambiam. Pour la nouvelle année, spécialement, je demanderai à tous les Togolais d'avoir le cœur au Togo. Et pour nos dirigeants, je leur demanderai beaucoup plus d'avoir conscience que le développement s'impose.
Ces propos ont été recueillis à Lomé par notre correspondante Kay Lawson. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci à Georges Léonard Sagno pour la mise en onde, Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.